میگنه به ملک حرام به ملک عربی یه قبل دست کرده یه منوا عربم و می آفره این آرما به تو عربم چی به جو گفتیه؟ به ملک ملک عرب به عرب این دوال اگر بیستی را شه عرب این قدر لیان دیگر آنطور دوله عرب دیتو لایزا کنم کنسی می به حوض ملک بغل این وقت بخت و حریب کن آرم کلو می تونه ما ممکن آنجه نمی کنم می کنید به ما به دیگرگی آنطوری ما ایراک سه دیگرانشه et les tremblements de l'Arabie Saoudite et l'alliance avec l'Amérique et le monde entier se demande qu'est-ce qui va arriver certainement. Mais comment nous avons là de la Chine et toutes les nations du monde seront de la Chine, seront en transe totalement, ou Ibrahim seront affolés de nos films à PNL, tomberont face à terre, mais et il y a un autre homme qui dit ils font frire comme des douleurs de l'enfantement et Israël et Terachim ont dit bah allez et Israël aussi sera pris de transe et d'épouvante vers Omer et se dira les Khandavou les Khandavou et les où aller où se sauver vers Omer la Helm et le Mashiach la dit bah allez mes enfants à titre à vous n'ayez pas peur comme Mashiach a dit tout ce que j'ai fait l'aura dit la vie Venez-moi à tes Michaelis, pourquoi vous avez peur, à qui vous n'ayez pas peur, il y a 20 jours après, vous attendez votre jugement sali. Mais donc, à Bioula Rishona, à Bioula Harona, et cette dernière délivrance ne sera pas comme la première délivrance, celle d'Égypte. Bioula Rishona, c'est la première délivrance, à Yalachem, Zahar, de Shimbut, Mankouyo, Zaharia, vous avez été encore exilés, opprimés après elle, à Bioula Harona, mais la dernière délivrance, et Yalachem, Zahar, de Shimbut, Mankouyo, Zaharia. Simplement, je vous ai dit ça en passant. De quoi je parlais, oui, de la fin de la royauté qui est en train de se passer dans le monde. Alors, bien entendu, d'un point de vue historique, sociologique, on peut expliquer ces événements par la série des causes et des effets sans du tout faire allusion à Israël, mais il reste à moins que l'événement brutal comme tel, c'est que c'est au moment où Israël retrouve sa souveraineté nationale que les différentes Malkoutot s'arrêtent. Je crois que, là, d'un point de vue strictement traditionnel, l'arrêt de la dynastie en Éthiopie, c'était un signe très important, et surtout celle de Père. C'est fini. Vous savez, alors on a encore en compte avec la Fémondée, et on finira par manger la barre et par faire quelque chose. Ben, c'est un cas particulier, je ne peux pas prendre deux ans. Ça a été la royauté héritière de l'Empire d'Europe, l'Empire occidental de l'Empire anglais, de notre temps. Est-ce que vous m'en avez dit ? Et un temps où ça a été l'Espagne. Donc ça commence en Italie, bien sûr. Et un temps où ça a été l'Espagne. Il y a eu des annexes. L'Empire français, l'Empire allemand, la Russie et son problème. Mais finalement, l'Empire occidental, c'est évidemment l'Empire anglais. C'est-à-dire qu'il y a. C'est Rome, mais dans sa modalité, l'Angleterre, qui a finalement dominé le monde, le monde entier, puisque finalement, c'est leur langue qui est la langue mondiale actuellement. Par exemple, c'est simplement un ami. Il est bien évident, je ne sais pas si vous remarquez ça, c'est que la résurrection nationale d'Israël, c'est-à-dire la fin de l'Église pour Israël, est corollaire du commencement de l'effondrement de l'Empire britannique. Vous avez remarqué ça. Et puis finalement, c'est évidemment l'Empire britannique qui s'est réclamé de l'identité d'Israël ou de la Bible, c'était à eux. C'est pas qu'on est contre. Les Français, c'est rien à côté de la diffusion de la Bible par les Anglais. Vous voyez ce que je dis. Et puis surtout, c'est eux que nous avons récupéré avec Israël. Bon. Donc, ça, c'est un aspect du problème. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que, bien entendu, ces études existent. Dans le détail le plus précis. Mais il suffit pour le moment que vous sachiez grosso modo que c'est l'événement dans sa massivité qui compte. Avec qui vous arrivez à juger de cela du point de vue de l'événement le plus le plus brut. On arrive au temps de la décolonisation. Ça commence par l'effondrement de l'Empire britannique, le moment de la résurrection nationale d'Israël, et les royautés s'arrêtent partout. Les Américains. On ne peut pas le savoir. Alors, bien entendu, nous sommes unis. Un universitaire occidental habitué à étudier les phénomènes historiques, sociologiques, de tout autre point de vue, de tout autre critère. Si vous allez lui dire une chose pareille, il va être mystique. Okay? Mais comprenez bien, depuis le début d'année, j'ai été plus habitué à cela, et que pour espérer la relation à la tradition juive, il faut inverser les critères de l'évidence. Okay? Je me rappelle un des premiers cours sur l'origine de la philosophie, au début d'année. Quand c'est habitué depuis l'émancipation, à juger de l'histoire d'Israël et de sa tradition du point de vue des critères de la conscience goy qui est en rivalité avec elle depuis l'origine. Vous voyez que s'habituer à l'attitude intellectuelle inverse, de juger de l'histoire universelle du point de vue des critères de la tradition israélienne. Mais sachez bien qu'il n'y a pas de dialogue possible entre ceux qui se trouvent là ou là. Le dialogue est impossible. C'est pourquoi je vous dis très clairement, vous soyez bien averti. C'est-à-dire, un universitaire occidental habitué aux méthodes de l'université occidentale, qui ne serait pas au courant de toutes les amours que vous avez eu de redécouvert de la cohérence de la tradition juive pour elle-même, à partir de la Bible, eh bien, pour lui, c'est absolument hermétique, la cohérence de ces cohérences que je vous en ai eues. Okay? Et c'est normal. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est une autre lecture des mêmes phénomènes. Okay? Or, dans cette autre lecture des mêmes phénomènes, nous avons toute une tradition explicative, et donc qui a des séances d'initiation très précises. Okay? Mais ceci dit, sans arriver jusque-là, la correspondance, je veux dire la cohérence, la corrélation des événements est tellement massive qu'on ne peut pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui peut nous aider, c'est de savoir que nous avons des sources très anciennes qui prévoient ces développements-là. Par exemple, vous rappelez, vous avez dit, une chine à une fois, que je pense que je vous avais lu, que le moment de la fin de l'Église s'appelle la fin de Shirmu Malchuyot. Vous rappelez ça? Et que ce que Shirmu Malchuyot, c'est la fin de l'impérialisme. On n'a pas assez de ça. Et effectivement, c'est à ce que nous attendons en termes contemporains la décolonisation que commence le temps de la fin du temps d'Église d'Israël. Et c'est tellement lié que, dans le sens, mais du point de vue de la sensibilité de la tradition juive, ça va jusque-là, c'est que c'est la libération d'Israël qui est le point de départ de la libération de tous les autres peuples opprimés. Et pas l'inverse. C'est pas que au moment où la décolonisation s'est fait partout, elle s'est fait aussi pour les juifs. C'est l'inverse. C'est au moment où elle devait se faire pour les juifs, que ça se déclenche pour les autres. Mais d'une certaine manière, c'est la déclaration Balfour qui déclenche la décolonisation. D'ailleurs, historiquement, c'est vrai. Chronologiquement, c'est vrai. Vous suivez le problème. Vous voyez bien évidemment, quelqu'un qui n'est pas familier aux évidences de la tradition ne peut pas voir cela. Et si nous lui en parlons, eh bien, tranquillement, il dit qu'ils sont fous. Des livres. Est-ce que c'est clair? Bon, on va terminer, puisque je l'avais sous la main, à vous citer un petit échantillon. Sachez que tous les événements qui se passent aujourd'hui sont dans le Midrash. Simplement savoir lire les événements du Midrash, on peut apprendre à lire. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe tellement dans la réalité. Et, alors, il y a un problème de fond, où est la liberté d'histoire si tout est programmé. Okay? C'est un problème qu'on verra tout à l'heure. D'Israël contemporain, oui. C'est-à-dire, nous avons une royauté camouflée en président de l'État, mais c'est la même chose. Ce qu'on appelle le roi dans les régimes monarchiques, c'est le président de l'État dans un régime étatique. Ça, quand même. C'est pas le Ménéra Machiav dévoilé descendant de David, mais la royauté est déjà revenue. Elle est revenue en clandestinité, comme on dit que c'est l'Empire, en miniature, okay? Mais elle est déjà revenue. Encore une fois, et c'est tellement évident qu'on ne le voit pas. Encore une fois, habituez-vous à cela, c'est que c'est la massivité des événements qui donne la signification de la qualité importante. Pendant 2000 ans, nous étions un peu réguliers, soit sous la thé politique. Okay? Et notre temps, il y a tout le monde sous la thé politique. Ça veut dire que la marque revient en Israël. C'est pas plus compliqué que ça. donne mais on tue. À un sacerdoce qui fait ça, c'est ça, c'est nous donner un Dieu au point de faire. Et vous voyez, avec des problèmes quand les juifs religieux, si vous ne prenez pas les armes, sont en porte-à-faux avec la halakha. Par exemple, il y a un scandale à la réunion de la Bouddha d'Israël, il y a la semaine dernière. Bon, la Bouddha d'Israël, c'est le plus grand chakramim de la Bouddha d'Israël. Et puis, normalement, le président d'État devait inaugurer la réunion, une réunion mondiale, comme il fait pour tous les partis, pour tous les. Eh bien, finalement, on lui a fait dire qu'il n'était pas possible que les grands rabbins d'Israël, enfin, c'est pas les grands rabbins d'Israël, mais que les grands rabbins de la Bouddha d'Israël se lèvent quand ils rentrent. Et que par conséquent, je ne sais pas qui aurait inventé que par conséquent, ils ont fait après lui, je ne sais pas quoi. Non, alors il a refusé de venir, il a eu raison, d'après la fin. D'après la fin, même, les grands rabbins qui sont même plus âgés que lui devaient se lever sans lui, parce que c'est le chef politique du pays, c'est-à-dire le roi. Je vous cite la halakha. Alors il ne voulait pas se mettre dans cette situation-là et leur faire honte. Il a dit je préfère ne pas venir. Mais c'est une honte pour ces rabbins-là, ils ne connaissent pas leur Torah. Enfin, ils la connaissent, mais ils ne connaissent pas. Pourquoi le futur transformé en passé, quel? C'est un malheur burada o kral papaya şimdi yapar. Çeşitli yok. Bu da bu vakti gelişti dinleyin. Qui va faire que la communauté juive sera sauvée, d'une part le rôle des pères, elle se sacrifie pour sauver la communauté. Et Mordechai va lui dire, vous avez dû certainement lire le verset, et après tout, qui sait si ce n'est pas pour ça, si tu as pris comme l'air. Hein? Et donc, il y a une sorte de sacrifice, Mordechai, ma commune. Et Mordechai accepte.
Yeah,
Ce n'est pas toujours parce qu'il médite sur la signification des nombres, frère. Mais aussi, il est bien avec. Bon. Et alors voilà. Et la scène que je vais vous raconter, au moment où Jacob, et vous retrouverez dans les textes, vous en avez référence dans Brigitte, au moment où Jacob est revenu de chez Laban, et qu'il a rencontré Esaü, il s'est prosterné devant Esaü, lui et tous ses enfants. Ok. Bon. Un, sauf un, qui n'était pas encore né, c'était Benjamin. Vous avez compris la force de la jante. Il n'a pas dans son identité cette espèce d'obséquiosité du juif obligé de se prosterner devant le goy comme stratégie de survie. Benjamin lui pose la main. Et alors c'est un descendant de Benjamin qui va lever la tête contre Aman. Et qui c'est Aman? C'est un descendant d'Amalek, c'est-à-dire des Aïeux. J'ai suivi les généalogies. Ça a été clair? Bon. Voilà le premier test. Alors en fait, la tribu de Benjamin, nous allons apprendre un peu plus en détail maintenant dans les références, la tribu de enfin l'identité de Benjamin a été conçue dans l'exil comme toutes les autres tribus. Jacob a eu tous ses enfants en exil. C'est un thème que je dois expliquer maintenant pour lui-même, okay, que vous rattachez à la fonction de l'exil. Voilà, il se dévoile que l'identité des Shvatim, des tribus, sont conçues dans l'exil. Aujourd'hui, nous ne nous affilions plus en tribus, okay, puisque après la destruction du Baïs Rishon, toutes les tribus se sont mélangées. Il y a encore certaines familles qui savent à quelle tribu elles se rattachent, mais c'est très rare. Okay. Je vais citer ça peut-être à propos d'autres choses. Il y a des familles où il y a ce qu'on appelle un supérieur chassid, un lieu généalogique, et on sait très bien de qui la famille dépend. Que ce soit chez les Ashkenazim, chez les Sfaradim, en général, ce sont des gens de la tribu de Juda en particulier, qui ont gardé la filiation de l'Église. Mais c'est plus nécessaire. Selon la Halakha, jusqu'au temps messianique, l'identification par tribu n'a plus force de loi, puisqu'il y a eu un grand mélange. C'est clair. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'analogue. Il y a le même statut que la division. En tribu, c'est la division communauté. Mais en hébreu, les tribus des Shvatim, c'est quelque chose de très analogue. Dans tous les sens, puisque les différentes communautés, elles vous diraient différentes communautés ashkenazes, différentes communautés sfarades, italiennes, yéménites, tout ce que vous voulez, ont leur type caractéristique. Exactement de la même manière que les Shvatim qui ont leur spécificité du point de vue des Goïm chez qui ils ont été construits. C'est tout ce que je veux dire. Je m'explique pas, vous avez compris l'idée, hein? Toutes les tribus d'Israël sont Israël. Et chacune tribu est un Israël différent. D'où vient cette différence des Goïm que chez qui on vient? Est-ce que c'est clair? Vous voyez qu'il y a quelque chose d'analogue. C'est bien à ça. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'un un juif polonais est différent d'un juif marocain, c'est pas en tant qu'il est juif, c'est le même. C'est en tant que l'un vient du Maroc et l'autre vient de la Pologne. Donc la différence de juifs entre eux, c'est la différence d'égoïsme. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est cette idée que les Shvatim, les tribus, les communautés sont conçues dans les autres. Vous voyez, c'est l'aide de la relation avec la diaspora universelle en vue de l'unifier. C'est-à-dire lorsqu'un juif marocain et un juif polonais se marient dans un même enfant, qu'est-ce qui se marie? La Pologne et le Maroc. Et c'est pas facile. Mais il y a des juifs qui peuvent faire ça. Si vous mettez les Polonais et les Marocains entre eux, il n'y a plus de Polonais et de Marocains. Vous voyez ce que je dis? Donc je vous ai parlé une fois. C'était le problème de la municipalité israélienne qui est le premier d'unification de l'humanité entière par délégation de ces juifs. Bon, et en fait, j'ai vécu personnellement ce problème, puisque ma femme est polonaise, et je crois que c'est effectivement mon expérience personnelle qui m'a mieux fait comprendre ce thème qui est dans les textes. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça. Non. Et quand on était fiancés, on avait un problème de race. Comment on allait chanter aux enfants pour les berger? Et ou à l'église, si on allait de là-bas, et c'est pas la même chose. Alors finalement, on a décidé de chanter en hébreu. Vous voyez comment ça marche. Et il m'est arrivé de la ma frappé, j'ai chanté un peu là. Mais ça, c'est en plus. Ça, c'est un enrichissement en plus. Mais la famille ne pouvait faire qu'en même eux. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que qu'est-ce qu'elle est derrière l'Indie? La culture occidentale. Qu'est-ce qu'elle est derrière l'Indie là-bas? La culture orientale. Rien à voir avec les Juifs. Mais c'est à travers les Juifs que ça se marie. Que ça peut se marier. C'est pas facile. Mais les enfants sont bien quand même. Bon, vous voyez ce que je veux dire, cette petite page-là. C'est-à-dire, c'est le problème de l'humanité en général, mais il n'a de chance d'avoir une solution qu'à travers les juifs de l'humanité. Bon, ça, ça se rattache à ce thème-là. Ça veut dire que la spécificité des tribus vient du paysage de l'exil. Est-ce que c'est clair? Bon. Là-dessus, il y a énormément de thèmes, je vais vous donner celui qui me concerne. C'est que, au moment où Jacob a dû s'enfuir de chez Laban, tous les enfants étaient nés, sauf Benjamin. Rachel était enceinte de Benjamin. Il est donc conçu dans l'exil et il naît en arrivant en Eretz Israël. Et en particulier pour un problème, ce qui fait que lui-même, vraiment, il ne sait pas quoi faire. Est-ce que c'est vrai? Vous avez compris l'exil là. Et toutes les tribus d'Israël, d'une certaine manière, ont ça dans leur pédigré, je ne sais pas comment dire, dans leur programme d'identité, qu'est la prosternation devant les goyim jusqu'à la fin du temps. C'est une espèce de stratégie du juif de l'exil. Aujourd'hui, on commence un peu à redresser la tête. Pourquoi pas qu'Israël existe? Mais faire un effort d'imagination à trouver ça dans les documents. Qu'est-ce que c'était que la position du juif chez les goyim pendant 2000 ans? Il fallait avoir une stratégie de combattre. Le chapitre 35 de Réchis, notez bien, et je schön für ihre Gewerke, ihre Raschim und ihre Gewerke. Hashem ist trotzdem der Raschim. Ich habe nicht darüber, dass sie selbst sein. Hashem ist trotzdem, dass sie selbst. Donc, lorsque Jacob est revenu dans le pays clan, et après la rencontre avec Esaü, alors finalement, on arrive à un endroit qui s'appelle Bethel, et nous avons le texte suivant. Bah, ils trouvent Bethel, et ils ont levé le camp de Bethel, bah, ils ont aussi Frata avec Samuel et Frata. Il y avait encore un chemin à parcourir pour arriver à Ephrat. Ephrata, c'est Bethlehem, hein? Bethlehem et Frata. Bethel et Rachel, et Rachel enfanta. Bethekash Bethita, et elle, Bethekash, c'est-à-dire l'enfant avec difficulté. Elle a des difficultés à enfanter. C'est-à-dire que cet enfant de n'en jamais n'est pas simple. Il est dur, il est difficile. Verset 17. Vaïni, il arrivera vers Shota Bethita, alors qu'elle enfantait avec difficulté. Quand la Ramiyamedet, la sage-femme lui dit, Al-Tiréi, n'aie pas peur, qui garde les Ramed, car celui-ci aussi est votre âge. Et Vaïni, Bethel Nacha qui mena, et il arriva, alors que son âme l'a quitté, parce qu'elle est morte en couche, Rachel est morte en accouchant de Benjamin. Un accouchement difficile, elle fait une seule chose, c'est un fils. Donc les anges ont réussi. Et vous vous rappelez du souhait de Joseph, si vous parlez de ça déjà. Lorsque Joseph est né, Rachel a souhaité avoir un autre fils. Vous vous rappelez de ça? Elle a fait Yosef, que Dieu marie un autre fils. On en a parlé à propos de Caïn et Abel. C'est-à-dire, elle a vu que ce Joseph, premier-né, ne serait pas comme Caïn. Que s'il a un frère, le frère ne s'est pas en danger, alors elle dit que Dieu marie un autre fils. C'est la rédemption de la faute de Caïn avec Joseph. L'autre fils, ne sera pas en danger comme Abel chez Caïn. Effectivement, toute l'histoire de Joseph, c'est celui qui est capable de fraternité. Vous rappelez de cela. Je vais annoncer cela. Que toute l'histoire de Caïn s'achève avec quand Joseph en parlait, c'est le temps messianique qui commence. Alors, Batifa et Chemo, Batifa Chemo, Ben Oli. Rachel a appelé cet enfant qui est Ben Oli. On va mettre ça vers le bord. Ben Oli. Et le texte ajoute, et son père l'a nommé Binyam. Alors, je vais donner les trois explications que cite Rashi en citant le Midrash de la signification de ces mots. Ça vous permettra de diagnostiquer tout de suite qu'est-ce que c'est cette force que représente Benjamin et qui est nécessaire pour que le salut apparaisse contre un Amalek. Vous voyez, avec mon partage de tous les autres, Tarka Mordecha est capable de briser la tête vis-à-vis de l'Amalek de la même manière que Benjamin. La tête n'était pas concernée vis-à-vis de la main droite de tout ça. Alors, je vais vous donner une explication que donne Rashi. Rashi nous dit ceci. Benjamin, ça veut dire je suis fils de la double voix. Elle appelle Benjamin, comme dit le texte, en hébreu, ça veut dire par le double voix. Parce qu'elle enfante avec difficulté ce dernier enfant, qui est la dernière chance d'Israël, suivi à une identification. Conçu dans l'exil, mais né en arrivant dans le pays. Okay. Alors que toutes les autres tribus sont nées dans l'exil et ramènent les différentes dimensions qui doivent être mises en creuset d'unité dans l'unité d'Israël. l'homme de Binyamin se plaisait. Mais la partie d'Israël qui a été conçue dans l'église, qui est dans la plus grande douleur et qui devient la plus grande force en étant d'Israël à la fin des temps, c'est notre génération.
Gracias.